Eh bien, chers amis, je suis heureux d'être encore avec vous ce soir pour introduire cette retraite du mois de juin 1998. Je voudrais, avant que nous entendions le Seigneur nous accueillir lui-même dans ce lieu providentiel, vous faire une confession. Dans ces derniers jours, nous avons passé par différentes épreuves et, dérangé constamment par le téléphone, je rédigeais ce papier et je voulais que vous ayez directement des feuilles pour mettre vos annotations. Et je me suis un petit peu embrouillé. Alors, vous trouverez les numéros 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à la page 14. Puis après, il n'y a plus de numéros. Alors ma femme m'a dit, tu n'as pas besoin de prendre tout ce monde pour des ignorants, ils peuvent compléter. Alors, je vous ai laissé le soin de compléter. Après 14, il vient 15, mais ce sont des pages blanches, hein, jaunes, si vous voulez, mais sur lesquelles vous pouvez mettre les notes que vous voulez. Comme ça, vous avez tout ensemble. Et puis alors, vous arrivez à la page 25, où j'ai fait un petit résumé. Alors, la page 25, je crois qu'elle est marquée. Alors, vous complétez les pages, vous. Je ne suis pas comme mon ami de Québec, qui est imprimeur et qui aurait su tout de suite quel numéro mettre sur les pages. Mais j'allais au fur et à mesure que le Seigneur m'inspirait. Alors j'ai pensé que vous pouviez compléter vous-même si vous le voulez. C'est pas nécessaire, mais jusqu'à la page 14, ça va. Et puis alors, l'avant-dernière, la 25, c'est un résumé de plusieurs passages qui concernent la foi. Alors, il y a encore plusieurs personnes qui doivent arriver dans cette soirée. De sorte que le premier message, vraiment sur ce thème, nous l'aurons demain matin. Et alors, comme nous le faisons toujours, nous désirons que tous se sentent accueillis, non pas par un homme, par un prédicateur, mais que ensemble, vous et moi, nous nous sentions accueillis dans cette maison que nous disons être providentielle pour nous depuis tant d'années, où nous pouvons nous rassembler et vivre des heures bénies à l'écoute de la seule parole de Dieu. Et alors, chaque début de ces retraites, nous nous sommes trouvés accueillis par le Seigneur lui-même, et moi avec vous. Alors nous ne sommes que des frères, qui sont, et des sœurs, unis ensemble, pour jouir de la communion fraternelle et étudier les Écritures sous la dépendance du Saint-Esprit. Et quand j'ai demandé au Seigneur « Comment vas-tu nous accueillir ce soir au manoir du Will ?» La parole qu'il m'a donnée, et vous savez, c'est tellement beau d'avoir un Dieu qui nous parle, et qui nous parle par sa parole. C'est pas mon imagination. J'étais en prière, je lui ai dit, Seigneur, comment vas-tu nous accueillir? Et qu'est-ce que je dis de ton accueil aux âmes qui seront rassemblées? Et il m'a donné ce texte, je vais m'asseoir pour que vous puissiez le lire, et que je ne porte pas ombrage à ces paroles. Et je voudrais que vous receviez cela de la part du Seigneur lui-même. Et alors, le thème de la foi que nous allons étudier, eh bien, il commencera tout de suite d'opérer en vous. Ce que le Seigneur vous dit et qu'il me dit à moi, moi, je suis l'alpha. Et vous le savez, l'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Et vous connaissez aussi que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Alors, l'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Et l'oméga, c'est quoi? C'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Et c'est le Seigneur qui vous dit ça. Je suis l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le commencement et la fin. Bien, quand on entend notre Dieu nous dire ce qu'il est, on devrait être débarrassé de toutes nos angoisses et de toutes nos craintes. Si c'est vrai qu'il est cela, le commencement est la fin. Le commencement aussi de nos épreuves, mais aussi la fin de nos épreuves. Et quand on connaît un peu ce qu'est notre Dieu, on sait que quelles que soient les difficultés que nous rencontrons au commencement, la fin sera toujours excellente. Car toute chose, dit le Seigneur, travail, ça fait mal, hein, c'est le mot travail ou concours, mais le mieux c'est toute chose, littéralement travail, au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà la parole qui est dans mon cœur, et dans toutes vos épreuves, au lieu de vous décourager et d'en arriver à ce que nous avons vécu ces jours à Montréal, cet homme qui apprend que sa femme a un cancer foudroyant et qui trouve bon de quoi faire, de tuer ses trois enfants parce qu'il va perdre sa femme. Alors il est découragé, je n'ai pas à le juger, mais c'est quelque chose quand même d'horrible. Eh bien ça peut arriver, et c'est arrivé, et c'est pas la première fois. Alors mes amis, il faut que la parole, et c'est pour cela que nous avons ces retraites, qui est dans ce livre, s'inscrive dans nos cœurs, dans nos consciences, dans notre mémoire. Et le Saint-Esprit, alors, saura agir pour nous rappeler au moment opportun que Dieu sera fidèle et qu'il va nous surprendre par une bénédiction plus excellente que ce que nous avons connu au commencement. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Si Dieu est la fin d'une chose, qu'est-ce que cette chose peut être meilleure? Sa volonté est toujours bonne, agréable et parfaite. Elle ne nous paraît pas toujours bonne. Elle ne se présente pas à nous comme étant peut-être agréable. Mais justement, la foi croit ce que Dieu dit. La foi, c'est prendre Dieu au mot. Je m'empare de ce qu'il a dit, je le crois. Je crois ce Dieu qui ne peut ni nous tromper, vous l'avez entendu ça au catéchisme, dans votre église première, je pense, que Dieu ne pouvait ni se tromper, ni nous tromper. Donc c'est un langage que vous pouvez comprendre. Eh bien, gardez cela de ce que vous avez reçu quand vous étiez peut-être enfant et qu'on vous enseignait au catéchisme. Eh bien, gardez cela dans votre cœur. Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Alors, on a la paix. Et de le croire ainsi, ça l'honore. Vous montrez que vous honorez Dieu. Vous le prenez au sérieux. Et c'est cela qui nous manque. Nous ne prenons plus Dieu au sérieux en 1998. Nous pensons toujours, oui, Abraham, il était bien heureux. C'était plus facile pour lui. Non, ce n'était pas plus facile pour lui. Et nous allons le voir dans cette semaine. Nous allons étudier la foi à la lumière de toutes ces vies d'hommes dont nous parle l'Écriture. Et nous allons comprendre par quoi ils ont passé. Et en voyant ce qu'ils ont éprouvé et ce qu'ils sont devenus, nous allons, en cette fin du siècle, être encouragés d'une façon puissante, quels que soient vos problèmes du jour. Mais vous voyez que les gens aujourd'hui, ils ne parlent que du bug de l'an 2000, de l'an du siècle prochain. C'est ça qui vous préoccupe? Non, chers amis. Nous voulons témoigner dans le monde où nous nous trouvons que nous sommes en paix. Dieu est le commencement et il est la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui nous a donné l'existence, celui qui peut nous la conserver. Mais maintenant qu'il nous a dit ce qu'il était, et je veux croire que ça vous touche, que vous avez une nouvelle révélation de Dieu dès ses premiers instants. Et c'est vrai, vous devez vous emparer de cela. Mais maintenant, il s'adresse à vous, directement. Qu'est-ce qu'il vous dit? Si vous êtes venu ici sans avoir soif, n'allez rien recevoir. Mais à celui qui a soif. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas soif? Et s'il n'a pas soif, je lui rembourserai le prix de cette pension ici, puisqu'il s'en mêle. Mais si vous avez soif, ça vaut la peine. À celui qui a soif, est-ce que vous avez soif d'un changement, soif d'une vie renouvelée, soif d'une vision qui transforme votre existence, à celui qui a soif. Mais on ne peut pas obliger quelqu'un qui n'a pas soif de boire. Qu'est-ce qui lui arriverait? Il vomirait, hein? Dans les retraites ici, c'est pas fait pour vomir. C'est fait pour se désaltérer. C'est fait pour être rafraîchi, pour être saisi. Et si vous étiez saisi par celui qui est le premier et le dernier, qu'est-ce que ça donnerait? Qu'est-ce que ça donnerait si vous le croyez, ça? Il est le premier et le dernier. Mais vous allez dire, oui, mais nous sommes dans la réalité, nous avons des difficultés, nous sommes dans le commerce, nous sommes dans les affaires. Vous croyez que le Seigneur n'est pas dans les affaires? Il est spécialiste dans les affaires. À 12 ans, il était déjà aux affaires de son père. Mais nous, on n'est pas aux affaires de notre père. On est aux affaires du monde, de l'an nouveau qui va venir. Hein, c'est ça? Tout le monde ne sait rien de ce qui va venir. Puis vous ne savez pas même si vous vibrez. Puis vous vous faites un souci monstre. Mais on ne vit pas au jour le jour. On ne vit pas comme des chrétiens. Qu'est-ce que Jésus a dit? À chaque jour, suffit sa peine. Mais nous, nous prenons les soucis d'un mois et d'un siècle à l'avance. Alors nous sommes écrasés. Parce que le Seigneur ne nous a pas donné de la force pour un siècle. Il nous a donné la force pour le jour, pour le quotidien. Et nous avons à réapprendre cela. Vivre au jour le jour. Et quand le soir arrive, on s'en remet au Seigneur pour la nuit, mais on ne se fait pas tous les soucis pour le lendemain matin. Pour quelle raison? On n'y arrivera peut-être pas le lendemain matin, il sera venu. Puis il nous aura pris dans une patrie bien meilleure que celle que nous habitons maintenant. Puis vous savez, quelle que soit notre patrie, on est toujours des étrangers. Étrangers et voyageurs sur la terre. Notre vraie patrie, si on connaît celui qui est le premier et le dernier, et qui nous a envoyé son fils, c'est une patrie céleste. Et ces hommes de foi dont nous allons parler, ils ont attendu cette patrie. Et ils n'ont pas été déçus. Ils ne l'ont pas reçue, pourquoi? Parce que Dieu avait quelque chose de plus excellent pour nous. Si eux ne l'ont pas reçu, c'est que Dieu nous réservait pour ce moment-là. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Ne me dites pas que vous voudriez être au temps d'Abraham, alors que vous allez peut-être toucher ce qu'Abraham n'a pas connu en son temps. C'est vous qui allez le recevoir. Mais eux aussi le recevront. Ils ne seront pas en arrière. Mais ils ne pourraient pas le recevoir sans nous. Vous voyez que vous comptez pour Dieu. Vous comptez pour lui. Et c'est un Dieu connu, un Dieu sur qui vous pouvez compter, que nous voulons vous présenter dans ces journées. À celui qui a soif, je donnerai, moi. Je donnerai. Il ne dit pas à celui qui mérite, à celui qui s'est bien conduit, à celui qui n'a aucun reproche à se faire, je donnerai. C'est pas ça. Mais c'est celui qui a soif. Au sein même de son insuffisance, au sein même de ses difficultés, au sein même des péchés aussi que nous avons pu commettre, mais que nous reconnaissons et que nous confessons, le Seigneur dit, je te donnerai, oh que c'est merveilleux. Je te donnerai, moi. C'est pas un autre qui va donner. C'est moi. Je te donnerai, moi, gratuitement. Vous croyez que le monde donne quelque chose de gratuit? Il n'y a rien de gratuit dans ce monde. Vous devez tout payer. Et non seulement payer, mais on vous ajoute encore des taxes. On nous montre quelque chose aujourd'hui, on nous dit c'est tel prix, mais si vous oubliez qu'il y a des taxes qui vont venir par-dessus, ben, vous êtes dans le rouge. Mais avec le Seigneur, il nous avertit. Et alors, on sait calculer. Mais ici, il nous dit, moi je vous donnerai gratuitement. Et c'est ça qui est merveilleux. Ce que Dieu donne, il le donne gratuitement. Je te donnerai gratuitement l'eau de la vie. Et vous savez, boire l'eau de la vie, c'est pas simplement penser, on aura la vie éternelle après notre mort, hein, mais c'est maintenant. Je te donnerai l'eau nécessaire pour que tu puisses vivre. Et puis, il ajoute, celui qui vaincra. Qu'est-ce que nous devons vaincre? Le doute. Est-ce que vous voulez garder le doute dans votre cœur, ou ce soir dire tout de suite, Seigneur, je m'abandonne, je te crois. Je te prends au mot, et c'est ça qui honore Dieu. Je te crois. Celui qui vaincra, héritera de ces choses. Vaincre, c'est peur. Vaincre, le doute. Je me souviens toujours, j'avais 14 ans quand je l'ai rencontré personnellement, mon Seigneur et mon Dieu. Et à genoux avec un frère qui avait été employé pour me conduire à une connaissance personnelle de Jésus. je l'écoutais me dire « Ne doute plus jamais quand Satan viendra pour essayer de te faire croire que Dieu t'a abandonné, que Dieu te délaisse. Rejette ces pensées. Celui qui doute, il écoute qui ? Un menteur. Alors, est-ce que vous êtes impressionné par un menteur ? Si vous savez qu'il est menteur, est-ce que vous savez que Dieu est droit, qu'il ne peut ni se tromper, ni nous tromper ? Oui. Hein ? Ça, vous le croyez. Mais celui qui doute, il est sous l'influence de qui ? Du menteur. Quel commencement ! C'est un menteur. Et vous savez, on a besoin de s'humilier de tous les doutes que nous avons. Moi, le premier, tous les jours. Je l'ai dit souvent, notre vie de communion, c'est une vie de confession. Si vous voulez garder la communion avec Dieu, vous devez confesser. On lui dit tout de suite, Seigneur, tu vois quelle nature j'ai, hein, c'est vrai. Mais j'ai un grand sauveur. Pourquoi est-ce qu'il est venu ? Parce que justement j'avais une nature mauvaise, qui ne pouvait pas s'améliorer. Vous essayez de vous améliorer, mais vous vous tuez. Et c'est quelque chose de terrible. Hein? Alors on est découragé. Dieu vous voit dans les perfections de votre Sauveur qu'il vous a donné, dans les perfections de Jésus. Est-ce que le Père a été satisfait de la vie de son Fils ? Oui, hein ? Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Publiquement, au moment de son baptême, celui-ci est mon Fils, bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon plaisir. Hein ? Eh bien, c'est dans les perfections de celui en qui il a tout son plaisir que Dieu vous voit. Car, et je veux croire, parce que plusieurs personnes nous disent après X années de conversion, soi-disant, parce que on a voulu les forcer à se convertir, on les a fait s'avancer, on les a impressionnés par ceci et par cela, et puis après on les fait signer quelque chose, puis ils signent, et puis ils ont une certaine date pour eux. Mais c'est pas sûr de cela. On est impressionné. Moi, je ne sais pas qui est sauvé, mais je sais que je prêche la parole qui peut vous sauver. Et vous savez, l'autre jour, j'étais au Saguenay et j'entendais des gens me dire, en 1960, quand vous êtes venu pour la première fois au Saguenay, vous avez prêché sur cela. C'était la parole. Puis ils avaient été bénis et ils s'en souvenaient encore. Peu importe que moi j'ai vieilli, mais eux se souvenaient de la parole qui leur avait été donnée. Et vous savez, j'avais tellement à cœur de rencontrer une jeune femme qui était enfant encore à ce moment-là, à peu près. Et j'ai pu la rejoindre. Elle est venue à cette réunion avec son mari. Puis j'apprends ce soir, son mari est décédé, ce matin, d'une crise cardiaque. Mais je les ai revus. Mais vous voyez, on ne peut pas se promettre le lendemain. Alors, mes amis, nous voulons vivre au jour le jour. Et nous voulons vaincre. À celui qui vaincra, il héritera de ces choses. Et qu'est-ce qu'il sera pour lui, pour celui qui vaincra ? Je lui serai Dieu. Mais quel Dieu, hein ? Dieu qui est au commencement et qui est à la fin de toutes nos vies. Je lui serai Dieu, et lui, qu'est-ce qu'il me sera ? Il me sera fils, mais de quelle manière ? Comment est-ce que vous pouvez penser que Dieu va vous traiter ? Puisqu'il dit, il me sera fils. Or, Dieu a eu un fils. Et quand il dit que vous lui serez fils, vous serez traité comme le Fils a été traité. Être traité comme Jésus. Si le monde reconnaissait que nous sommes vraiment des gens qui croient que Dieu les traite comme Jésus a été traité, mes amis, ça serait une drôle d'évangélisation pour le monde. Ils vous verraient tellement satisfait de la personne du Christ. Mais de quoi parlons-nous bien souvent quand on se rend compte? De nos misères. Au lieu de parler de ce que le Seigneur a été, de ce qu'il a fait, au lieu de nous souvenir qu'il y a eu une grâce aujourd'hui pour nous, dès le matin, quand on se réveille, est-ce qu'on pense tout de suite à nos soucis? Si vous lisez les psaumes, vous apprendrez comment il faut commencer une journée. Le matin, je disposerai ma prière devant toi, psaume 5, et j'attendrai. On vit dans l'attente des exaucements. On vit dans l'attente des délivrances. Et puis, on réalise qu'il nous traite en fils. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Et le monde peut alors vous demander la raison de l'espérance qui est en vous. Mais comment voulez-vous que le monde vous demande la raison de votre espérance s'il vous entend toujours vous plaindre, murmurer, trouver que le joug est trop lourd? Mais alors, ce n'est pas le joug du Seigneur que vous portez. Car qu'est-ce qu'il nous a dit au sujet de son joug? Son joug est aisé et son fardeau est léger. Il y a des gens qui sont toujours, ils se disent chrétiens, mais ils sont toujours écrasés par un fardeau trop lourd, rejetant sur lui tout votre souci. Et le fardeau qui vous empêche de courir. Alors mes amis, voilà. Notre introduction, vous allez la méditer, vous allez repasser cela dans votre cœur, c'est l'introduction du Seigneur. Il me parle à moi, il me parle à vous, et il nous dit ce qu'il est, ici, dans ce lieu, dont nous vous dirons quelques mots plus tard. Maintenant, je vous ai donné cette petite brochure, qui est intitulée « Croyance ou foi ». C'est une conférence que j'ai faite dans une salle publique de Nice, en France, une salle tout à fait mondaine, et qui traite au fond, qui introduit bien notre thème croyance ou foi. Et comme plusieurs ne sont pas encore arrivés, et que je crains que vous ne la lisiez pas, je vais vous la lire. Parce que je sais très bien qu'il y en a qui ne lisent pas, même cela. On n'aime pas lire beaucoup. Et alors il arrive qu'on vient ici sans Bible. Et si vous aviez lu, qu'est-ce que vous auriez vu sur l'annonce? Il faut venir ici avec une Bible. Alors vous pouvez dire, oui, mais vous nous en vendrez une. Mais on n'en a pas pris aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vous en prêter. Mais quand on vient dans un milieu comme celui-là, pour une étude biblique, eh bien, on prend une Bible. Parce que moi, je ne suis pas intéressé que vous écoutiez ce que je peux vous dire. Ce qui m'intéresse, c'est que la parole que nous allons méditer, vous la receviez dans vos cœurs. Et que vous ayez des convictions que cette parole est vraiment la vérité. J'ai lu un peu les articles qui paraissent ces jours dans des journaux religieux. Et qu'est-ce qu'on nous disait? On nous disait que les gens qui ont des convictions, ils risquent de compromettre un dialogue avec ceux qui n'ont pas les mêmes convictions que nous. Ceux qui ont des opinions seulement.
alors il faudrait qu'on ait tous la même opinion. J'ai même entendu cette semaine certains chrétiens dire qu'une communauté chrétienne, elle devrait ressembler à une boîte de sardines. Rendez-vous compte ? Vous voulez être une sardine ? Bon. Une boîte de sardines, oui, parce que toutes les sardines, elles ont la même forme, puis sont tête beige dans la boîte. Alors, dans une communauté, pour qu'on soit toujours d'accord, soyons des sardines. Bien pressées l'une contre l'autre. Vous rendez-vous compte ? Boîte de sardines. Une communauté boîte de sardines. Non. Nous disons non. Et puis, gardez cette question. Est-ce qu'une conviction va empêcher un dialogue avec quelqu'un, par exemple, d'athée, qui ne croit donc pas en Dieu, ou avec un ismaélite, avec un arabe, qui n'a pas la même religion, ou avec un bouddhiste? Qu'est-ce que vous répondriez? Quel est l'exemple qui nous montre qu'il y a eu quelqu'un qui avait les convictions de son père, qui est venu dans un... perdu, où les gens n'avaient pas les mêmes pensées que le père? Est-ce qu'il a eu des contacts? Est-ce qu'il a eu des dialogues? Oui, même avec une femme samaritaine qui avait des fausses doctrines. Si vous avez des convictions, ayez-les assez fortement. Et puis n'essayez pas de convaincre par vous-même, mais ne vous laissez pas ébranler à celui qui vaincra. Vous ne vous laissez pas ébranler. Mais nous, nous voulons tout de suite convertir les gens. Et nous les repoussons avec ça. Et quand ils ne veulent pas nous écouter, comme je le disais l'autre soir, on fait à celui à qui l'on a voulu parler du Seigneur, on commence à lui faire les grimaces d'un damné. Puisque tu ne veux pas te convertir maintenant, te donner au Seigneur maintenant, et voilà ce qui t'arrivera. Puis vous commencez à lui grincer des dents. Hein? Vous aurez des pleurs et des grincements de dents, et puis ça sera toujours, toujours, toujours. Il n'y a plus d'horloge. C'est à jamais. Puis on lui fait des grimaces de damnés. Et le type s'en va. Il a un bon souvenir de notre évangélisation. Mes amis, nous sommes à côté de la plaque. Comprenez-le. Parce que nous voulons convertir nous-mêmes, soyons simplement des témoins. Jésus était témoin. Il parlait à tous. Et qu'est-ce qu'on voyait? Les prostituées et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. C'est quelque chose. Il ne faisait pas venir des bons musiciens pour créer l'atmosphère. Il était là. Et si vous êtes là, le Seigneur se manifestera. Et voyez-vous, quand j'étais en Suisse, au Monnier, dans une ville de 3000 tuberculeux, je me rendais compte que les gens n'avaient pas de conviction. Mais qu'ils avaient des opinions, on partage les opinions du plus grand nombre. Et c'est là que, pour la première fois, j'ai eu ce message opinion ou conviction. Est-ce qu'on a que des opinions, ou bien est-ce qu'on a des convictions? Est-ce qu'on a des assurances? Alors, je vais vous rappeler ce qui est dit ici. La différence entre la croyance ou la foi.
je pense ne froncer personne si je souligne ici que nous vivons en des jours où la plus grande confusion règne dans le monde, aussi bien dans le domaine politique que religieux. Si les partis pullulent et si les leaders politiques cherchent à nous embrigader à gauche, au centre ou à droite, parallèlement, les croyances les plus diverses prolifèrent et les âmes sont sollicitées d'accepter les doctrines les plus extraordinaires et pressées de tous côtés d'adhérer à de nouveaux mouvements. On a lu aujourd'hui qu'il y aurait une émission bientôt à la télévision faite par les gays et les lesbiennes. Et ça viendra toutes les semaines. Et vous écouterez, hein. Vous avez la télévision, alors. On va voir ça. Et on va rire. On va rire de ce qui a amené la destruction de quelle ville ? Sodome et Gomorre. Et si Montréal continue dans cette voie-là, on peut s'attendre à autre chose que du gel. Après le gel, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Le feu. Et quand on voit tout ce qui arrive, si on ne veut pas suivre le Seigneur, nous sommes en danger. Le monde désorienté et chancelant cherche sa voie. Qui saura la lui montrer ? Et dès qu'une voix s'élève, le premier souci de la majorité qui l'écoute n'est pas de savoir si ce qu'elle dit est vrai, mais de rechercher qui l'inspire et quel est son milieu. On ne sait plus juger objectivement. On vit avec des préjugés et un esprit de parti. Si nous affirmons être croyants, automatiquement toute une partie de nos contemporains se détourne et manifeste ouvertement que les choses de la foi ne l'intéressent pas. Plusieurs refusent le dialogue qui pourtant ne serait peut-être pas sans fruit pour les uns et pour les autres. Si croyants, nous suivons le rite romain, immédiatement ceux qui n'acceptent pas l'enseignement de l'Église et certains de ses dogmes estiment n'avoir rien à recevoir de telles conférences. Si par contre un certain public suppose que nous appartenons au protestantisme, ceux qui croient devoir placer la tradition au-dessus de l'Écriture sainte nous considèrent instantanément comme suspects et dangereux propagateurs d'hérésie. Ainsi, il semble qu'il n'existe aujourd'hui pas d'homme capable de retenir l'attention de tous et d'apporter un message universel correspondant aux besoins actuels des hommes. Malgré ces difficultés et sans aucune prétention personnelle, nous avons cru devoir apporter ici un message dans lequel nous espérons que les âmes droites, à quelque horizon qu'elles appartiennent, discerneront une voie plus autorisée que la nôtre, une pensée qui n'est pas le fruit d'une profonde érudition, mais l'écho de la sagesse éternelle. Oui, nous ne sommes qu'une voix, une voix qui voudrait faire connaître aux athées l'amour que Dieu a pour eux. Car si vous voulez parler à des athées, il faut d'abord que vous les aimiez. Pas parce qu'ils sont bien, mais que vous les aimiez tels qu'ils sont. Et il faut rappeler aux croyants que leurs responsabilités dans ce monde sont à la hauteur de leurs privilèges et de leurs prétentions. Alors, dans le deuxième point, une distinction importante. Si nos dictionnaires font du mot « foi » le synonyme du mot « croyance », il existe pourtant, entre ces deux termes, une différence très nette que nous voudrions vous signaler, parce que nous croyons qu'à l'heure actuelle, cette distinction est de la plus haute importance. Elle nous intéresse au premier chef. La croyance est une opinion pure et simple,
qu'on peut avoir hérité de ses pères d'une tradition ou qu'on a acquise par l'éducation reçue. Ainsi, il y a des croyances juives, hein, vous le savez. Il y a des croyances musulmanes, hindoues, des croyances chrétiennes, catholiques, orthodoxes ou protestantes. Alors que la foi est avant tout un acte du cœur qui engage la vie tout entière, la croyance est plutôt un acte de l'esprit sans grande influence sur la vie pratique. C'est au fond une adhésion intellectuelle à une doctrine ou à un ensemble de principes qu'on ne cherche même pas à analyser et encore moins à définir et qui laisse l'homme dans son état naturel. La foi, au contraire, est une conviction ferme, constante et entière. Elle ne se transmet pas avec le sang. Nous ne l'héritons pas de nos parents, de nos amis ou de nos frères. Elle ne sort pas de notre cœur charnel, mais est produite dans les âmes par la puissance de Dieu, par l'illumination du Saint-Esprit à l'ouïe de la parole de Dieu. Elle a pour objet la révélation de Dieu et se manifeste par une confiance totale au témoignage de Dieu et par une obéissance implicite à ses commandements. Si l'objet de la croyance peut rester vague et mal défini, si même, comme l'a dit Roubaud en français, le peuple peut donner sa croyance à des choses indignes de créance, la foi, par contre, a pour seul objet le témoignage de Dieu et ne le discute pas. Si donc la possibilité nous était donnée d'être ravis dans le ciel et pour quelques instants d'être rendus participants de l'omniscience divine, nous constaterions avec effroi ou étonnement, en considérant la chrétienté, que si une foule de gens affirme encore avoir une croyance, ils ne possèdent pourtant pas la foi. Et d'emblée, pour rendre plus clair et plus vivant notre exposé, nous vous poserons la question. Possédez-vous une croyance ou avez-vous la foi? Moi, ça ne me rassurerait pas que vous me disiez « j'ai une croyance ». Je suis un croyant. Mais est-ce que tu as la foi? De nos jours, nous rencontrons une multitude d'âmes ayant une croyance. Ils sont nombreux, en effet, ceux qui estiment qu'il est raisonnable de croire en l'existence de Dieu, reconnaissant facilement que de rien, rien ne peut naître. La même conclusion se retrouve dans deux vers qui étaient cités par Voltaire. L'univers m'embarrasse, disait-il, et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. S'il y a une horloge, il y a dû y avoir un horloger pour la faire. S'il y a la création, il y a dû avoir un auteur pour créer toutes ces choses. C'est logique. Croire en Dieu ne sauve personne. L'existence de Dieu proprement dite n'est pas un objet de foi. Elle apparaît comme la vérité la mieux établie, tant par l'ensemble des preuves apportées par la raison et l'Écriture sainte que par la faiblesse des objections des adversaires. Mais la croyance en Dieu, en un être suprême, en une cause première parfaitement intelligente, ne signifie pas encore qu'on possède la foi, cette vertu surnaturelle offerte par Dieu à tous les hommes et par laquelle nous tenons pour vrai ce que Dieu a révélé. De sorte que ce soir déjà vous pouvez savoir quelque chose. Hein. Est-ce que vous tenez pour vrai ce que Dieu a révélé? C'est ça la foi. Est-ce que vous croyez ce texte qui vous a été présenté par le Seigneur lui-même? L'acte de foi présuppose donc l'existence de Dieu
et a pour postulat une révélation transcendante. S'il n'existe pas de révélation divine, l'homme ne peut posséder aucune certitude quant à son origine et sa destinée. Abandonné à ses seules ressources, il ne connaît ni son créateur, ni la créature, et même il ne se connaît pas lui-même. Il perd pied et tout lui semble absurde. Sans révélation, l'homme se créera lui-même son Dieu, un Dieu à son image. Il ne saura faire autre chose que de le confondre avec les forces de la nature et ne sera qu'un panthéiste. Il voit Dieu partout, c'est Dieu qui est tout ça, mais pas un chrétien. Ou bien Dieu sera pour lui l'être suprême, le grand architecte de l'univers, le Dieu inaccessible, qui n'intervient plus dans la création. Si tel est votre sentiment, vous êtes alors un pur déiste, mais pas un chrétien. Vous croyez en Dieu, mais vous n'êtes pas chrétien pour autant. Le Dieu impersonnel et monstrueux des panthéistes, le Dieu lointain des déistes, n'apporte rien au cœur. Le besoin de l'humanité, c'est d'avoir Dieu avec elle. Dieu intervenant dans la vie et dans les circonstances des hommes. Mais hélas, ce Dieu-là, l'unique, le seul vrai, le vivant, il n'est pas connu, car l'homme ne le recherche pas. Quelqu'un n'entendra-t-il pas aujourd'hui la voix de Dieu lui dire, comme autrefois Ésaïe le prophète, « Pourquoi suis-je venu ?» Et il n'y a eu personne. « J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu ?» Ésaïe 50, verset 2. « Comment voulez-vous que Dieu intervienne favorablement dans le monde et dans vos vies, alors qu'avec toute votre croyance, vous lui tournez le dos, ne manifestant que mépris et indifférence pour sa parole ?» Vous croyez en Dieu ? C'est bien. Mais cela ne sauve pas. Selon les Écritures, les démons croient et ils tremblent, ce que beaucoup d'hommes ne font pas. Oui, vous avez une croyance, mais il vous manque la foi. Cette assurance des choses qu'on espère, cette démonstration, cette conviction de celles qu'on ne voit pas et qui se manifeste par une confiance et une obéissance qui nous pousse à soumettre notre vie entière au témoignage de Dieu. Or, si les perfections invisibles de Dieu, si le témoignage de sa puissance éternelle et de sa divinité se discernent et apparaissent visiblement à l'esprit dans les œuvres de la création, le témoignage de sa volonté et de son amour se trouve dans l'Écriture sainte et se révèle au cœur. Mais il faut avoir l'Écriture sainte, c'est pour ça que je vous dis, si vous venez ici, il faut venir avec une Bible. Ce livre contient en effet le témoignage que Dieu rend à notre sujet, et au sujet de son Fils. De la foi en ce double témoignage dépend notre salut présent et éternel. Si vous ne lisez pas les Écritures, si vous ne faites rien pour connaître ce témoignage, vous resterez sans foi. Saint Paul a pu dire en effet, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. « Avez-vous la foi ?» ne veut pas dire « croyez-vous en Dieu ?» mais « croyez-vous ce que Dieu a dit ?» Notre attitude devant la Bible. Dieu a-t-il vraiment parlé ? C'est là toute la question, et de la réponse que nous lui donnerons dépendra notre croyance ou notre foi. D'aucuns vous affirment que Dieu a parlé et prétendent que sa parole est à la portée de tous, qu'on la trouve dans un livre, j'ai nommé la Bible. Quelles preuves ont-ils pour proclamer ainsi que la Bible est la parole de Dieu? Vous savez que ce livre affirme lui-même son autorité et son inspiration divine. L'apôtre Paul souligne que toute écriture est inspirée de Dieu. L'apôtre Pierre déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit
que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et il y a les versets. Mais nul ne peut être son propre témoin, et nous avons le droit de demander des preuves. Qu'est-ce que la Bible ? Si nous interrogeons les hommes afin de nous éclairer sur cette question, nous entendrons des témoignages les plus divers et les plus contradictoires. Dans le monde religieux, des personnes vous diront avec assurance, sérénité et simplicité que la Bible est la parole de Dieu. Je ne sais pas ce que vous pensez, vous. Est-ce que vous avez des jeunes convictions au sujet de la Bible ? Est-ce que la Bible est la parole de Dieu ? D'autres, par contre, sont plus réservés et vous expliqueront avec beaucoup de sérieux que la Bible contient la parole de Dieu. Elle n'est pas la parole de Dieu, mais elle la contient. Et qu'il appartient à certains théologiens érudits de déclarer ce qui dans ces pages est de Dieu et ce qui est de l'homme. Alors vous vous confiez en qui ? Vous confiez dans quel jugement ? Le jugement des hommes. Or, il y a un autre jugement. C'est que, par exemple, pour l'Ancien Testament, qui est-ce qui a dit que tout l'Ancien Testament était inspiré de Dieu ? C'est Jésus. Jésus a revêtu de son autorité toutes les pages de l'Ancien Testament. Et puis, c'est lui qui a choisi les auteurs du Nouveau Testament. Donc, nous avons là une autorité, quand nous savons que c'est Jésus. D'autres encore, sans nier la valeur morale du livre, rejetteront toute idée d'inspiration divine. Si vous interrogez les masses populaires, on vous dira, sans grande réflexion, que la Bible est le livre des Juifs. Vous l'entendez souvent sans croire. Plus nombreux encore seront ceux qui affirmeront que ce livre est celui des protestants. C'est ce qu'on disait autrefois dans le catholicisme. Et on vous mettait en garde de lire la Bible. Pourtant, depuis les encycliques des derniers papes et les efforts remarquables entrepris par des hommes de foi et de science pour mettre la Bible entre les mains du peuple, vous entendrez aussi des personnes proclamer que la Bible est le grand livre de quelle église ? De l'Église catholique. Ça, il faut le reconnaître maintenant. Il y en a qui disent cela. Cependant, certains ne se feront pas faute de vous mettre en garde contre ce livre volumineux, plein de mystères et de contradictions, sans parler de choses bizarres et douteuses, de fables, de légendes, un livre qui nous parle de mœurs, d'us et de coutumes, d'un autre peuple et d'un autre âge, un livre qui contient des choses scandaleuses, un livre dangereux pour les enfants. Vous aimez mieux donner à vos enfants autre chose que la Bible. Et on voit jusque dans nos églises des enfants qui viennent avec un livre pour se distraire. Et qu'est-ce que c'est que ce livre ? C'est des comiques. Puis on les a pris. Quand vous alliez à l'église, vous autres jeunes, qui étiez jeunes, on ne vous donnait pas ça. Vous étiez silencieux. Vous étiez à côté de vos parents. Vous étiez recueillis. Maintenant, non. On met dans l'esprit des enfants tout autour. Comment voulez-vous qu'ils écoutent ? On fausse nos enfants. Et cela vous donne une fausse idée de Dieu et de l'homme. Ceux qui partagent de telles opinions sur la Bible prouvent simplement ou qu'ils ne la connaissent pas personnellement, quand on vous dit que c'est un livre dangereux, ou qu'ils ne l'ont pas comprise, ou encore qu'ils résistent à la vérité. Peut-on croire à l'inspiration des Écritures ? Ayons un peu de loyauté et examinons sans parti pris ce livre. Avec la Bible, nous nous trouvons en présence d'un ouvrage qui pourrait être comparé à une petite bibliothèque comprenant deux parties, Ancien et Nouveau Testament. 39 livres canoniques composent l'Ancien Testament, c'est-à-dire la première alliance de Dieu avec un peuple particulier, Israël. 27 livres forment le Nouveau Testament ou la nouvelle alliance établie par Dieu avec l'humanité entière sans distinction de race. Ces 66 livres furent écrits au cours de 16 siècles par plus de 40 auteurs différents, parmi lesquels toutes les classes de la société sont représentées, rois, poètes, hommes d'État, médecins, soldats, douaniers, pêcheurs, bergers. Mais, direz-vous, tout ceci ne prouve pas que ces hommes ont été inspirés de Dieu. Quelle preuve avons-nous de l'inspiration de la Bible? Et là, je dis, je me bornerai en citer cinq, après quoi nous examinerons le message biblique pour savoir s'il est si absurde et si dépassé. La première preuve de l'inspiration, c'est l'accomplissement des prophéties. Appelons accomplissement que nous pouvons constater de nos yeux. Ah. Prophétie se rapportant au peuple juif, à sa dispersion et sa restauration. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est faux? Qu'est-ce que vous voyez dans le journal, chaque jour à peu près? Des nouvelles des juifs, hein? Israël. Aujourd'hui, avec la renaissance de l'État d'Israël, les incroyants sont déjà placés en face de l'évidence. Mais, prophétie se rapportant aux nations païennes, et en particulier à Babylone. Sans contredit, ces prophéties sont devenues histoire. Ces prophéties de Jésus-Christ se rapportant à la destruction de Jérusalem. En l'an 70, qu'est-ce qui s'est passé? Jérusalem a été détruite. Des prophéties de Jésus-Christ ayant trait à la fondation et à l'édification de son Église. Est-ce qu'il y a une Église qui a été édifiée par le Christ? Oui. Ces prophéties des apôtres annonçant à l'avance l'apostasie de la chrétienté et des moqueurs incrédules des temps actuels. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? C'est l'apostasie, le rejet ouvert des vérités chrétiennes. Celui qui lit son parti pris, c'est Christ, c'est la vérité. Deuxièmement, l'unité de l'esprit qui pénètre toute la Bible, malgré son étonnante diversité de temps et d'auteurs, partout nous trouvons le même souffle et le même but. Le caractère de durée, d'universalité des messages bibliques, son application admirable à tous les âges, à tous les tempéraments, à tous les degrés de la civilisation, à tous les peuples, à tous les siècles. La Bible est toujours en avance sur les progrès de la civilisation. 4. Sa conservation merveilleuse et sa diffusion toujours croissante. Livre attaqué, poursuivi, interdit, brûlé, il est aujourd'hui traduit en plus de 1000 langues et dialectes et diffusé en millions d'exemplaires par année. Enfin, la cinquième preuve, la plus puissante, se trouve dans les effets de ce livre, dans les transformations qu'il opère, dans les foyers et dans les vies, dans l'impression immédiate et irrésistible que cette parole produit sur toute conscience droite. En l'écoutant, on s'écrie « c'est la vérité ». Et quelqu'un me disait en Suisse l'année dernière, « moi je ne lis plus la Bible ». Parce que je sais très bien que je ne peux pas vivre selon ce que ce livre dit. Alors, je ne veux pas troubler ma conscience. Alors, on ne la lit plus, comprenez-vous? Mais on n'est pas vainqueur. Tandis que, si vous admettez qu'il y a des choses qui vont vous toucher, que ça va peut-être vous faire mal, que vous devrez peut-être changer de chemin, changer d'attitude, alors vous continuez à la lire et vous demandez la force de vivre ce qu'elle dit. Et maintenant, je montre quelques affirmations bibliques. Considérons brièvement le contenu de la Bible. Que nous apprend-elle sur l'homme et sur Dieu? Son enseignement est-il si absurde, si dépassé? Nous n'allons pas discuter ou nous livrer à la critique des textes, mais vous posez simplement devant les affirmations bibliques cette question. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est faux? Alors, c'est à vous de répondre. Hein. La Bible raconte que l'homme a été créé par Dieu elle s'est volontairement séparée de lui. C'est ce qu'elle dit. Hein. Est-ce juste ou faux? Il est facile de considérer, de constater aujourd'hui que les hommes vivent loin de Dieu. Est-ce que vous trouvez qu'ils vivent près de Dieu? Par sa désobéissance, s'étant éloigné de Dieu, l'homme tomba, selon la Bible, sous la puissance du péché et de la mort. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est faux? Le péché est une réalité et la mort une évidence tragique. 3. Laissés à eux-mêmes, c'est-à-dire sans loi, les hommes devinrent si mauvais que Dieu décida de les détruire par le déluge. Est-ce juste ou faux? Je vous le demande. Je ne vous demande pas si vous croyez au déluge dont Jésus lui-même a parlé, mais si l'expérience ne prouve pas qu'un peuple laissé sans loi aboutit à l'anarchie. 4. Après le jugement du déluge, les hommes confirmèrent les affirmations de Dieu et prouvèrent que leur cœur, que le cœur de l'homme est incurable. C'est en face d'une évolution régressive que la Bible nous place. Ayant connu Dieu, les hommes ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ils tombèrent dans l'idolâtrie. L'idée de la divinité se dégrada, les forces de la nature furent divinisées, les hommes furent livrés à des passions infâmes, à leur convoitise, à un esprit réprouvé qui appelait le jugement de Dieu et faisait retomber les civilisations brillantes à l'âge de la pierre. Est-ce juste ou faux? Quel est le témoignage de l'histoire? 5. Dieu intervient en grâce au sein du paganisme. Il choisit un homme, Abraham. Nous allons nous occuper de lui dans ces journées. Il le sortit de l'idolâtrie en se révélant à lui et lui fit la promesse qu'il deviendrait le père d'un grand peuple et que toutes les nations de la terre seraient bénies en sa postérité qui est le Christ. Est-ce juste ou faux? Israël, le Christ, les communautés chrétiennes tirées de toutes les nations sont des réalités. 6. Laissant de côté momentanément les nations, Dieu se consacra à l'éducation du peuple et qu'il avait choisi. Il fit d'Israël le dépositaire de ses pensées, lui donna une loi en attendant de faire naître de ce peuple le Messie qui devrait sauver non seulement Israël, mais le monde entier. Est-ce juste ou faux? La loi de Moïse n'est-elle pas à la base de presque tous les codes civils du monde? J'ai dû téléphoner à un avocat il y a 2 jours, il aurait dû être ici, c'est notre ami Paul Guilbeault, qui s'excuse et qui vous salue, et qui soulignait que tous les codes civils du monde sont basés sur la loi de Moïse. Lui-même le reconnaissait. 7. Enfin, la Bible nous apprend.